On va tout de suite ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Proverbes au chapitre 17. Et cet après-midi, on va faire plusieurs lectures. Donc vous étonnez pas, on va feuilleter un peu notre Bible. Et j'aimerais qu'on puisse parler d'un des attributs de Dieu. Vous savez que Dieu a plein d'attributs, c'est-à-dire qu'il y a plein de mots, il y a plein de qualificatifs qui définissent qui il est. Et vous savez que si on veut vraiment connaître Dieu, connaître quelqu'un, c'est connaître de plus en plus cette personne et c'est de connaître toutes ses caractéristiques. Et souvent, il y a certains attributs de Dieu que l'on connaît, il y en a même certains que l'on aime mettre en avant, mais il y en a d'autres aussi. Et ce que l'on veut, c'est vraiment connaître Dieu. Jésus dira que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et de connaître Jésus-Christ qui a été envoyé. Et parmi les qualificatifs de Dieu, on connaît celui qui dit que Dieu est amour. On connaît celui qui dit que Dieu est bon. On connaît le fait que Dieu est grand, que Dieu est un refuge, que Dieu est puissant, mais qu'il ne rejette personne, que Dieu est un roi, que Dieu est un seigneur, que Dieu pourvoit, que Dieu est esprit, etc. Il y a plein d'attributs. Et celui que j'aimerais que l'on voit cet après-midi, c'est que Dieu est juste. Dieu est juste. Dans le Proverbe, dans le livre des Proverbes, au chapitre 17 et au verset 15, il est écrit ceci. « Celui qui absout le coupable... et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. » C'était Proverbe 17, 15. Donc on voit deux choses. Que Dieu n'aime pas, c'est celui qui absout le coupable, c'est-à-dire que celui qui mérite une punition soit renvoyé sans punition, et que celui qui condamne le juste, c'est-à-dire celui qui n'a rien fait, les deux sont en abomination à l'Éternel. Vous savez que dans la Bible, il n'y a pas grand-chose. Enfin, il y a certaines choses, il n'y en a pas beaucoup, qui sont abominables aux yeux de Dieu. Si on va dans le psaume 119, le psaume 119 au verset 137, il est écrit ceci. Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. On voit donc dans ce texte que l'un des attributs de Dieu, c'est qu'il est juste. Il est juste. Tu es juste, ô Éternel. Si on va dans le psaume 129, au verset 4, il est écrit cette même parole, et elle revient plusieurs fois. L'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants. L'Éternel est juste. Alors j'ai regardé dans le dictionnaire ce que ça voulait dire, la justice, être juste. Être juste, quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui a le souci de la justice. C'est quelqu'un qui agit avec précision, exactitude, justesse. Par exemple, on a cette expression « une balance juste ». Ça veut dire c'est une balance qui va donner le poids exact. Il y a une notion d'exactitude. Quand je dis quelque chose avec juste, ça, on pourrait dire en synonyme qu'il y a de la justesse. C'est exact. Et c'est le souci de la justice. La justice, c'est quoi ? Ben, c'est la capacité de dire ce qui est juste ou ce qui est injuste, ce qui est condamnable ou non. Quand il y a les juges qui sont là et qui font justice, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils disent, lui, il est coupable, lui, il est innocent. Il y a une sorte de jugement qui tombe. C'est tranché. On sait ce qui est bien, on sait ce qui n'est pas bien. C'est ça, la justice. Et des fois, même dans nos vies, il peut y avoir des choses qui sont bonnes, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas bonnes. Et la justice de Dieu, c'est justement cette capacité à faire la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Dieu est juste. Dieu est juste. C'est lui qui définit ce qui est bien et ce qui est mal. Mais il n'y a pas que ça. Si on va dans le psaume 7, allez, on va, je vous ai prévenu, hein, on va lire. Dans le psaume 7, au verset 11, « Mon bouclier est en Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. » Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes, etc. Donc on voit au verset 12 que Dieu est un juste juge. Ça veut dire qu'il est juste, mais aussi il est juge. C'est une de ses caractéristiques. Ça veut dire qu'il exerce le jugement. Et en plus, il nous est dit, il s'irrite en tout temps. Alors ça, ce n'est pas forcément l'attribut qu'on met toujours en avant, mais c'est quand même écrit. Pourquoi en tout temps ? Mais c'est à cause du péché qu'il y a sur la terre. Mais on voit que Dieu exerce la justice. C'est-à-dire que ce n'est pas juste il connaît ce qui est bien et ce qui est mal, c'est qu'il y a un moment, il nous est dit que Dieu exerce, Dieu est un juge. Et un juge, c'est quelqu'un qui prononce des sentences, qui à un moment, au temps marqué, dit les condamnations, les sentences. Dit un moment, enfin un jugement quoi. Comme vous savez, quand on va au tribunal, un moment, à la fin, il y a la sentence qui tombe et on sait qui est coupable et qui est innocent. Dieu est juste et il exerce la justice. La Bible dit, c'est dans Hébreux 9, 27, ne le cherchez pas, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Le jugement. Et lorsqu'il nous est parlé de ce jugement, ça nous est parlé du jugement que Dieu rendra. Dans Matthieu chapitre 16, verset 27, je vous le lis aussi, il est écrit, c'est Jésus qui parle, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Il nous est dit qu'il rendra à chacun selon ses œuvres, à chacun, c'est-à-dire à tout le monde. Et vous savez, oui, Dieu est juste, oui, Dieu va exercer la justice, il est juge, et il jugera chacun. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et pour nous qui sommes là, nous qui sommes hommes, il nous est réservé de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Est-ce que vous savez qu'un jour vous allez passer en jugement devant Dieu ? Dieu est juste. Et on le voit ce jugement dans la Bible. Si on va dans l'Apocalypse, au chapitre 20 et au verset 11, on voit le moment du jugement. Ce qui se passera, et vous savez, là on va le lire, mais un jour on y sera. Là, ce que l'on va le lire, on va le vivre. Et il est écrit, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus... » Pardon pour ceux qui cherchent, c'est Apocalypse, chapitre 20, verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, c'est-à-dire tout le monde, et il y aura nous dedans. Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés, selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Ce moment-là, c'est ce que l'on a lu tout à l'heure quand il est dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Effectivement, le moment, à partir du moment où on meurt, il y a un jugement qui va arriver et on a vu ce jugement. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Et vous savez, personne dans cette salle, personne sur cette terre n'échappera au jugement de Dieu. C'est ce qu'on appelle souvent le jugement dernier. Et vous savez, toutes les actions, toutes seront jugées. Lorsqu'il y a du mal, des fois on a l'impression que Dieu n'agit pas. Mais vous savez, ce n'est pas parce qu'il n'agit pas maintenant qu'il ne va pas agir au moment marqué. Et il faut savoir, du fait que Dieu est juste, c'est que rien ne passera. Toutes les actions, toutes les choses mauvaises qui se sont produites sur cette terre seront un jour jugées. C'est la Bible qui le dit. Et la Bible dit aussi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il vient le temps où on sera jugé. Et face à ce constat, face à cette réalité, de toute façon qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est ce qui arrivera. C'est la Bible qui le dit. Et vous savez, la Bible, elle ne dit pas forcément ce que l'on aime entendre, toujours, mais elle dit la vérité. Pourquoi ? Parce que la vérité, elle rend libre, et la vérité, c'est ce qui nous permet de nous préparer. Et donc, face à cette vérité, on a tous un problème. C'est que la Bible dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. C'est écrit dans le livre des Romains, au chapitre 3. Le livre des Romains, au chapitre 3. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Alors là, on a un problème. Parce que Dieu est juste, et nous, on ne l'est pas. Dieu va juger le péché, tout ce qu'il y a de mal qui a été commis dans notre vie. Le problème, c'est qu'on a tous fait le mal. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va faire pour s'en sortir ? Peut-être quelqu'un aura une objection. Il disait, oui, mais si Dieu est juste, pourquoi il n'exerce pas le jugement ? Et ça, souvent, on l'entend. S'il est juste, pourquoi il n'intervient pas quand il y a tel drame qui se passe ? S'il est juste, pourquoi il ne va pas punir instantanément les personnes ? C'est vrai. pourrait se poser la question, pourquoi Dieu n'applique pas la sentence immédiatement? Surtout qu'en plus, dans le livre de Job, il est écrit que lorsqu'une sentence contre quelque chose qui est mal est différée, le cœur de l'homme se remplit du désir de faire le mal, lorsque l'on ne punit pas instantanément. Pourquoi Dieu permet que son jugement vienne plus tard? Ça, c'est une question. Ça ne remet pas en cause sa justice. Mais des fois, nous, notre temps n'est pas forcément le temps de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il attend? Ben ça, on a cette réponse et on va aller ensemble dans le livre aux Romains, dans l'Épître aux Romains. Et l'apôtre Paul parle justement dans cette épître à certaines personnes qui pensaient échapper au jugement. Parce que, eh oui, effectivement, du fait que le jugement ne tombe pas instantanément, les gens pensent qu'ils vont y échapper. Et donc dans Romains, au chapitre 2 et au verset 3, voici ce que va dire Paul. Romains chapitre 2, verset 3. Et penses-tu au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? La réponse, c'est une question rhétorique. La réponse, c'est non. Ils n'échapperont pas. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Vous voyez, il nous est dit plusieurs choses. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? On voit que Dieu est bon. Oui, il est juste, mais il est bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut nous faire du bien, malgré le fait que nous, on fasse le mal. Il nous est dit qu'il est patient, et c'est ça la raison. Que pourquoi il n'exerce pas le jugement de suite, c'est parce qu'au final, ce qu'il exerce en ce moment, c'est la patience. Et sa longanimité. La longanimité, c'est quoi? C'est la patience dans la douleur. Ça veut dire que pour Dieu, c'est pénible de voir le péché, c'est pénible de voir le mal, mais il patiente quand même, malgré le fait que pour lui, ça lui pèse. Voilà, en français courant, ce que ça veut dire. Pourquoi? Et on a cette réponse, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Et on voit après qu'il parle, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation, c'est-à-dire le moment où la sentence va tomber, la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Et on va s'arrêter là. On voit vraiment qu'il y a le jugement de Dieu, qu'il y a le jugement de Dieu. Mais si Dieu diffère son jugement, c'est parce qu'il veut une chose, c'est parce qu'il veut que tous les hommes parviennent à la repentance. Ce que Dieu veut, ce n'est pas exercer son jugement et que nous allions, comme on l'a lu tout à l'heure, en enfer. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons sauvés. Et c'est pour cela qu'il patiente, parce qu'il veut et il désire que tous les hommes soient sauvés. Lorsque Jésus va venir sur terre, son premier message, il est simple. Repentez-vous et convertissez-vous. Lorsque Jean-Baptiste va venir préparer le terrain du Seigneur, qu'est-ce qu'il va prêcher? La repentance. Il dira, repentez-vous et convertissez-vous. On le voit, ces prédications. Lorsqu'on voit Pierre qui va prêcher pour la première fois, il va dire aussi, repentez-vous et convertissez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent sur vous. Si on va dans l'évangile de Luc et qu'on voit juste un exemple, celui de le message de Jean-Baptiste qui préparait le terrain au Seigneur, au Luc chapitre 3, verset 7, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» C'était costaud, hein, les prédications. « Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, etc. » Après, plus loin, on voit au verset 10, la foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vient aussi des publicains pour être baptisés et lui dire, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, mais contentez-vous de votre solde. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus grand que moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Et là, on a l'image du jugement. Jean préparait le chemin pour celui qui amassera le blé dans le grenier, c'est l'image du ciel, et qui brûlera la paille dans le feu, c'est l'image de l'enfer. Oui, il y a un jugement. Oui, ce jugement est différé, et Dieu veut sauver. Alors peut-être que quelqu'un me dira, attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. On a lu tout à l'heure que Dieu est juste. On a lu ce texte qui dit que celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. On se fait dire, mais attendez, il y a un problème. Si nous, on n'est pas juste, et que Dieu est juste, comment est-ce que ça se fait que l'on puisse aller au ciel? Si des gens comme nous qui faisons le mal vont au ciel, c'est qu'il n'est pas très juste. Vous êtes d'accord avec moi? À moins que Dieu trouve un moyen que nous puissions être pardonnés tout en ce que lui, il reste juste. Vous comprenez? Justifié, c'est-à-dire pardonné, tout en restant juste. Eh bien, on a on a un texte qui nous explique comment Dieu va faire. C'est dans Romains, hop, on navigue, au chapitre 3 et au verset 23. On a le constat que l'on vient de dire, Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Moi y compris. Tous ont péché. Et si on est honnête, on se rendra compte qu'on a tous péché. Et que ce qu'on mérite, c'est d'être privé de sa gloire à cause de nos péchés. Mais ça ne s'arrête pas là. Mais ils sont gratuitement justifiés. Justifié, ça veut dire rendu juste. Dieu peut vous justifier. C'est-à-dire que vous soyez juste. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. La rédemption, c'est quoi? La rédemption, c'est quand on libère quelqu'un en payant une dette, en payant un prix. Donc on peut être justifié parce que quelqu'un a payé le prix. C'est ça que cela veut dire. Et il nous est dit, un peu plus loin, en parlant de la rédemption qui est en Jésus-Christ, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, une victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Alors là, c'est un peu compliqué. Il nous est parlé de victime propitiatoire. Ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est que Jésus a été le sacrifice, celui qui est venu mourir pour que Dieu nous soit favorable, pour que Dieu nous soit propice. C'est le mot qui a donné propitiatoire. Et il nous a dit que lorsque Jésus est mort, lorsqu'il a été fait victime, Dieu a montré sa justice à ce moment-là. Et la clé, elle est là, au verset 26. « Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. » Ça veut dire que Dieu peut nous rendre juste, tout en restant juste lui-même. Alors, on va me dire, « Ouh là là, c'est compliqué. » Dieu montre sa justice. Il nous est parlé de Jésus-Christ, qui a payé le prix. Et vous savez, c'est l'image, il y a cette petite histoire pour expliquer ce qui s'est passé à la croix. Imaginez un juge qui doit juger quelqu'un. Antoine, qu'est-ce que tu as fait de mal? Je sais pas, disons que tu m'as piqué quelque chose. D'accord, je dois rendre justice. Voilà, je suis juge, j'ai droit de juger. Voilà. Hein, imaginons, je me fais plaisir, c'est moi qui prêche. Bon. Antoine, il est coupable. Moi, je suis juge. Je dois être juste. Je suis juste. La sentence, elle tombe. Coupable. Je suis juge. Est-ce que si je disais à Antoine, bon, bah, allez, on est copains, parce que je t'aime, tu es juste. Est-ce que ça passerait? Tout le monde dirait, non, c'est pas juste du tout. Je suis obligé de condamner. Et donc, Antoine, t'es condamné à me donner 500 euros pour... préjudice moral et dédommagement de je ne sais trop quoi. Mais parce que j'aime Antoine, ce que je vais faire après, c'est que je vais aller lui donner moi-même les 500 euros. C'est moi qui vais payer pour la condamnation qui est juste pour lui. Et au final, c'est ce que Dieu a fait à la croix. On méritait la mort à cause de nos péchés. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais parce que Dieu nous aime, il a donné son Fils unique à la croix, Jésus, pour payer nos fautes. Et de cette manière-là, Dieu reste juste en nous justifiant parce que le prix a été payé. Et que le prix de nos dettes, tout le mal que l'on a fait, c'est Jésus qui a payé à la croix. Et oui, Dieu est juste. Et au final, le jugement de nos vies, le jugement de notre péché, il a déjà eu lieu à la croix. Jésus est mort pour nos péchés. Et Dieu peut nous justifier, peut nous déclarer juste, peut nous pardonner, peut enlever tous nos péchés et toute la condamnation de nos péchés. Et la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a pris notre condamnation. C'est ça, être justifié. C'est pas que j'ai rien fait, mais c'est que malgré ce que j'ai fait, le prix a déjà été payé, et il a été payé par Dieu. Le salut, c'est quoi? C'est pas l'homme qui paye un prix, ou qui rachète ses fautes en souffrant, comme on voit dans certaines religions. Le salut, c'est Dieu qui paye pour nous, et qui a offert sa vie à la croix pour que nous puissions être sauvés. Et s'il l'a fait, c'est par amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui. Oui, chacun, tout le monde va passer en jugement, mais ceux qui croient en Jésus-Christ, ils échappent au jugement parce que Jésus a payé pour eux. Et on voit cette réalité qui est vraiment mise en évidence, c'est dans le livre de Luc. On va lire le livre ensemble. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, il y a un homme qui a compris ça. Il l'a compris au dernier moment, mais il l'a compris. Et on voit cette justice qui s'accomplit à ce moment-là. On voit un homme qui était sur une croix. Et s'il était sur la croix, c'est vraiment qu'il avait fait des choses graves. On ne crucifiait pas les voleurs de pommes. On crucifiait des personnes qui avaient vraiment fait qui avaient commis des actes qui méritaient la mort. Et il nous est dit ceci, donc dans Luc au chapitre 23, et si on va au verset 39, donc Jésus est crucifié entre deux brigands, et l'un des malfaiteurs crucifiés, verset 39, l'injuriait disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. À ce brigand, il n'a rien compris. Que Jésus, justement, il ne se sauvait pas lui-même parce que ce qu'il voulait, c'était nous sauver, nous. C'est pour ça qu'il est allé et qu'il est resté sur la croix. C'est justement, il ne s'est pas sauvé lui-même parce que ceux qui voulaient sauver, c'était nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Vous avez vu? La même condamnation. Pour nous, c'est justice. Il va dire que c'est juste. Lui, il a compris que c'était normal qu'il soit sur la croix, que c'était juste. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci, n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et quelle est la réponse de Jésus? Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Vous avez vu? Mais le brigand, il y a quelque chose qu'il a reconnu, c'est que c'était justice. Et tant qu'on ne s'est pas reconnu coupable, tant qu'on ne s'est pas reconnu comme méritant l'enfer, alors on a du mal à comprendre ce que Jésus a fait à la croix. Mais lorsque le Saint-Esprit parle à nos cœurs, lorsqu'il nous montre que Jésus, il est allé sur la croix pour nos péchés, pour mes péchés, et si Jésus est mort sur la croix, c'est pour le monde entier, mais c'est pour moi, c'est à cause de mon péché. Lorsque l'on réalise que Jésus-Christ a accepté de payer le prix pour moi, lorsque je crois, celui qui croira sera sauvé, alors je reçois sa justice. Et au final, lorsque ceux qui acceptent le sacrifice de Jésus se présenteront devant Dieu, un jour, il n'y aura plus aucune condamnation. Dieu ne parlera même plus des péchés qui ont été commis. Pourquoi ? Parce que c'est Jésus qui les aura payés. Il nous est dit dans Colossiens 2,14 qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est-à-dire qu'on avait des ordonnances où il y avait toutes nos fautes. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. toutes nos fautes ont été effacées parce que Jésus les a prises à la croix. Alors comment faire pour se préparer? On a vu tout à l'heure que Dieu est juste, que le jugement vient, et bien tout simplement en croyant, en la bonne nouvelle de l'Évangile, en croyant que Jésus a pris nos péchés à la croix. Et la Bible dit, si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. C'est-à-dire ce qui nous était inaccessible à cause de nos fautes. Si je crois en l'œuvre de Jésus, la gloire de Dieu, le ciel, m'est alors réservée. Et je vais finir avec ce verset qui dit, c'est dans le Proverbe chapitre 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Oui, si je cache mes transgressions, si je veux continuer à vivre avec, je ne prospérerai pas. Et le jour du jugement, ça se passera mal, et je vous aurai prévenu. C'est mon rôle, hein, en tant que prédicateur, que d'annoncer ces choses-là. C'est comme ça. Vous ne pourrez pas dire que je n'ai pas dit. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais par contre, celui qui les avoue, qui dit au Seigneur, oui, c'est vrai, j'ai péché, je suis pécheur, j'ai fait le mal, j'ai fait du mal à Antoine, j'ai fait du mal à telle personne, j'ai mal parlé, j'ai mal pensé, j'ai mal, etc. Oui, c'est vrai. Qui les avoue, qui les délaisse, parce que se repentir, c'est quoi? C'est pas garder le péché, c'est vouloir s'en débarrasser. Celui qui les avoue, qui les délaisse, celui qui croit en Jésus-Christ, que Jésus-Christ est mort à la croix pour lui, qu'il a payé le prix pour ses péchés, alors celui-là, il est sauvé. Il n'est pas sauvé demain. Jésus n'a pas dit au brigand « demain peut-être ». Jésus a dit au brigand « aujourd'hui, tu seras sauvé ». Et la Bible dit « si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur ». Et si aujourd'hui vous entendez la voix du Seigneur qui vous appelle, qui vous montre qu'il a fait justice, qui vous montre qu'il a payé pour vous, qui vous montre qu'il est mort à la croix pour vos péchés, pour que vous soyez sauvés, et bien simplement saisissez ce salut par la foi et vous serez sauvés. Et instantanément, cet après-midi, maintenant, il n'y a même pas besoin d'attendre plus longtemps, vous pouvez être sauvés parce que vous saisissez que Jésus-Christ est mort pour vous à la croix et qu'il a payé le prix.